Bien, bonsoir à tous et à toutes. Il est 17h02 et vous êtes bien sur Aligre FM. Les atterrés reviennent, ils reviennent, ils ne sont pas contents. Non, ça n'est pas un nouvel épisode de vendredi 13. Et d'ailleurs, nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 dans la nouvelle émission mensuelle des atterrés et des atterrés EES qui va s'appeler Atterrés et compagnie. Alors, Atterrés et compagnie, c'est un peu comme Monstres et compagnie, mais un peu moins poilu. Et on va quand même essayer de se poiler un peu. Et en fait, le principe de l'émission, c'est qu'on va essayer de faire le contraire de ce qui se fait dans beaucoup de médias où on nous présente sous des allures sérieuses des théories pas très sérieuses. Donc c'est en gros c'est le contraire de Dominique Seux ou Pascal Praud. Donc, et on aura dans cette émission des invités hétérodoxes, c'est-à-dire des gens qui pensent de travers par rapport à la doxa dominante et qui ont des choses critiques à dire sur le capitalisme, sur l'économie, et on va essayer de le faire dans la joie et la bonne humeur. Il y aura des atterrés, mais il y aura aussi des compagnons de route des atterrés, et il y aura même des femmes de province qui viendront nous voir sur leur tracteur, et on salue Mireille et Virginie. Au passage, donc ce sera une fois par mois, si et seulement, sur et seulement sur Aligre FM, le vendredi, de 17h à 18h, à écouter seul, en direct, en famille, ou avec vos amis, en direct ou en podcast. Je suis Dany Lang, je suis l'un des premiers atterrés et vous êtes sur Radio Aligre avec moi pour une heure. Alors, pour l'instant, on va commencer par présenter nos invités. Sylvain Biot, bonjour.
Bonjour.
Donc Sylvain Biot, vous n'êtes pas atterré, mais vous êtes donc un compagnon de route puisque vous avez écrit un ouvrage avec Jonathan Marie ici présent, qui lui est membre des économistes atterrés. Enfin, la dernière fois que j'ai vérifié, vous l'étiez. Enfin, voilà.
À jour de cotisation.
Et à jour de cotisation, ça, je n'ai pas vérifié, mais la prochaine fois, on prendra la peine de le faire. Et donc, vous avez écrit avec un autre atterré, d'ailleurs, Éric Baird, un ouvrage intéressant, assez compact, sur l'inflation, qui perd, qui gagne, pourquoi, que faire, et pourquoi deux questions... Pourquoi de questions, autant de questions dans un seul titre? Ça, c'est une question à se poser aussi. Et donc, on va commencer cette émission. Et pour commencer cette émission, on va apprendre un peu à vous connaître. On va essayer de dresser votre portrait. Et j'aimerais vous demander déjà comment vous êtes devenu économiste hétérodoxe, c'est-à-dire pas dans la doxa dominante. Qu'est-ce qui fait que finalement vous n'avez pas adhéré aux joies de la théorie néolibérale? On commence par Sylvain peut-être.
Disons que mon parcours, du coup, j'ai fait l'école l'ENSAE, l'école qui forme les statisticiens économistes qui travaillent à l'INSEE en non fonctionnaire, et ensuite j'ai enchaîné sur une thèse sur l'économie marxiste, sur la transformation des valeurs en prix. Et en fait, je ne l'ai jamais terminé, mais du coup, j'ai repassé le concours pour travailler à l'INSEE, donc pour devenir administrateur à l'INSEE. Et voilà mon parcours un peu. Et ensuite, j'ai travaillé surtout à la comptabilité nationale à l'INSEE depuis que j'y suis rentré.
Et donc, la transformation de la valeur en prix, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la théorie marxiste.
Exactement.
Voilà. Et pourquoi vous n'avez jamais fini?
Je me suis un petit peu dispersé et finalement, j'ai décidé de travailler à l'INSEE.
Ouais,
pour des
bon.
raisons pragmatiques.
Et, bon, vous auriez pu faire pire par la suite. Et donc, donc voilà. Et pourquoi vous n'avez pas adhéré finalement au néolibéralisme? Pourquoi la théorie marxiste
Pour des raisons à la fois théoriques et puis des raisons militantes aussi. Parce
D'accord.
que bon, voilà, j'ai aussi milité dans différentes organisations. Aujourd'hui, je participe aussi à l'Institut La Boétie, là, qui est
D'accord.
en lien avec la France Insoumise. Et
oui, voilà. Qu'on salue au passage La Boétie. Hein, on ne salue pas Exactement. Les partis politiques dans cette émission. Voilà. Donc Jonathan Marie, on ne va pas faire semblant, on se connaît, on a été collègues pendant des années, avant que tu sois promu professeur à Sorbonne Université. La Sorbonne Nouvelle, hein, c'est bien ça. Jonathan, finalement, on se connaît depuis longtemps, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi tu es devenu économiste hétérodoxe. Pourquoi tu as choisi d'être économiste? Est-ce que tu aimais jouer avec des bouliers quand tu étais plus jeune et pourquoi hétérodoxe? Est-ce que ta maman te torturait avec des photos de Milton Friedman pendant ton enfance?
Laisse ma maman tranquille. Dans mon enfance, j'ai beaucoup joué au foot et je suis toujours supporter d'une équipe qui a l'habitude de perdre.
Surtout quand c'est mon frère qui arbitre.
En tout cas, d'avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances de ses supporters, le Stade Malherbe de Caen.
Ouais.
Il y a peut-être un tropisme de ma part pour être dans le camp des minoritaires ou de ceux qui espèrent gagner et ne gagnent pas. Ça s'explique peut-être pourquoi je suis venu vers les économistes dominés dans le champ. Plus sérieusement, je pense que ma volonté de m'orienter vers une économie critique, une économie hétérodoxe, elle provient de mes années de formation à l'université, où j'étais dans une université avec un enseignement très standard. Et finalement, j'ai quand même accumulé pendant 4 ans une grande frustration d'avoir des enseignements d'économie très techniques, avec des hypothèses sous-jacentes sur les comportements des agences économiques qui m'apparaissaient très peu compatibles avec la réalité. Ça m'a poussé ensuite, vers la fin de mes études, à rechercher des enseignements plus qui me paraissaient plus réalistes et qui se sont avérés être des enseignements hétérodoxes, avant de m'orienter vers l'école post-keynésienne au cours de ma thèse.
Très bien. Et alors, justement, vous parliez de l'école post-keynésienne, parce que les économistes, c'est un peu comme les saucisses, ça fonctionne par chapelle. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette école post-keynésienne à laquelle j'appartiens aussi moi-même? Mais bon, c'est une école qui est assez large quand même. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers du post-keynésianisme, quelle est cette école à laquelle appartient aussi Eric Baer, l'un des deux autres auteurs du livre?
C'est une école qui puise son inspiration bien sûr dans Keynes, d'où son nom, le post-keynésianisme, mais aussi dans d'autres auteurs. On retrouve une influence de l'analyse marxiste, l'importance du conflit, de l'analyse par classe sociale, ce qui est important pour le sujet de cet ouvrage, pour comprendre l'inflation. L'inflation, et on le dit dans l'ouvrage, on l'explique dans l'ouvrage, est la conséquence de rapports de force, de tensions, d'intérêts divergents entre classes sociales. Et ces intérêts divergents sont au cœur de la dynamique capitaliste. C'est un marqueur de l'école post-keynésienne qu'on retrouve aussi dans d'autres écoles hétérodoxes, mais on pense l'économie par l'importance de ces groupes sociaux, avec d'autres caractéristiques qui passent par la demande effective, la reconnaissance de l'incertitude radicale, l'importance des questions monétaires dans la dynamique, et tout cela fonde un corpus d'analyse original dans le champ de la macroéconomie, de l'économie en général.
Oui, donc ça nous amène à votre livre, et donc on a une vingtaine de minutes pour en parler maintenant, on aura encore un peu de temps tout à l'heure. Donc ce livre publié par Le Seuil, qui est quand même un éditeur exigeant. Bon, alors, on est fin 2024, les perspectives d'inflation pour cette année de hausse des prix sont autour de 2%, si je ne m'abuse. Sylvain me corrigera et me mettra au coin si j'ai mal évalué ces perspectives d'inflation. Mais est-ce que finalement, publier un livre sur l'inflation, maintenant, vous n'avez pas raté votre vie? Est-ce qu'il ne fallait pas le publier il y a un an ou il y a deux ans, quand ça intéressait encore tout le monde?
C'est vrai que là, l'inflation a reculé. Mais ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est que au-delà des déclencheurs immédiats de l'inflation, donc la hausse des prix de l'énergie. En fait, on essaye de détecter des causes plus structurelles qui indiquent que potentiellement, on peut durablement connaître une inflation importante.
Ah donc on risque d'avoir de l'inflation en gros à long terme. Et alors quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez qu'on risque encore de se taper l'inflation à long terme, comme si on n'en avait pas eu assez ces dernières années de cette inflation? Donc quelles sont les raisons qui vous poussent à penser
Ce
ça?
qu'on pointe comme facteur un peu structurel, c'est la baisse des gains de productivité et même la baisse de la productivité du travail. Et donc, ce qu'on explique, c'est que bien les capitalistes, en fait, dans ce contexte-là, pour maintenir leur taux de marge, eh bien, ils doivent.
Leur taux de marge, donc c'est leur part du gâteau, hein,
Voilà, leur part
soyons
du
clairs.
gâteau, comme justement
La part des profits.
comme le gâteau, justement aussi, la taille du gâteau a tendance à stagner avec la stagnation des gains de productivité, eh bien, pour maintenir un profit important, eh bien, ils ont la tentation, eh bien, d'essayer d'augmenter leur prix et donc de faire baisser les salaires réels, puisque évidemment, il est très
Le pouvoir
compliqué.
d'achat, le salaire réel, c'est le pouvoir d'achat.
C'est le
Donc, si
pouvoir d'achat.
effectivement, si les salaires augmentent moins que le prix, le pouvoir d'achat baisse.
Exactement, et c'est exactement ce qu'on a connu depuis depuis 2021, c'est-à-dire depuis 2021, les salaires réels baissent, c'est-à-dire que les prix augmentent plus vite que les salaires nominaux. Et donc c'est ce qui a permis en fait aux chefs d'entreprise, enfin aux capitalistes en fait de maintenir leurs profits. Alors c'est vrai que le taux de marge globalement il n'a pas augmenté.
La part des profits, effectivement, qui s'est stabilisée après avoir bien baissé quand même dans les années 80.
Voilà, et s'il n'y avait pas eu cette inflation, s'il n'y avait pas eu cette hausse des prix, le taux de marge aurait fortement baissé compte tenu de la baisse de la productivité.
Mais alors la productivité, justement, bon, déjà, il faut qu'on explique en termes simples ce que c'est. C'est le rapport entre ce qu'on produit, le nombre d'heures qu'il faut pour produire.
Exactement.
Et effectivement, on voit qu'elle baisse, mais alors, il y a des ordinateurs partout, il y a l'intelligence artificielle, ça devrait exploser. Pourquoi ça baisse la productivité, Sylvain ou Jonathan, ça devrait augmenter.
On pense même que la productivité peut durablement stagner, voire même qu'il serait nécessaire qu'elle diminue. Si on articule le propos de notre ouvrage avec des objectifs qui devraient animer la politique économique, et le principal objectif par rapport aux défis contemporains, c'est évidemment la transition écologique. Si on pense à la transition écologique, si on pense au débat qu'on observe sur la rémunération des agriculteurs, on voit bien qu'il est nécessaire de repenser la façon dont on organise la production agricole. On ne peut pas continuer à produire nos biens agricoles avec autant d'intrants chimiques, avec des parcelles de champs aussi importantes qui génèrent des dégâts en cas de forte pluie, etc. Donc on a besoin de revoir ces modalités de production. Si on restreint certains recours aux intrants chimiques, nous sommes susceptibles d'observer une baisse de certains rendements agricoles. C'est exactement ça, la baisse de la productivité. Est-ce que ça veut dire que pour autant il faut moins rémunérer les travailleurs dans les champs,
Oui,
les
parce que
agriculteurs
j'ai en
eux-mêmes?
tête l'idée, quand on est économiste, on a quand même l'idée que si la productivité augmente de 2% et qu'on augmente les salaires de 2%, il n'y aura pas d'inflation derrière. C'est quelque chose qui est assez bien connu. C'est aussi un peu l'enjeu d'avoir des gains de productivité. C'est quand la productivité augmente et les salaires augmentent autant que la productivité, derrière, ça n'a pas d'effet inflationniste. Donc finalement, est-ce que vous voulez pas encore plus que les gens se serrent la ceinture, quoi, quelque part?
Non, ce qu'on dit, c'est que justement par rapport à cet objectif de transition, il faut admettre que nous sommes susceptibles de rentrer dans une période de faiblesse des gains de productivité, voire de gains de productivité négatifs. Dès lors, il faut admettre que la répartition du revenu doit évoluer en faveur de la rémunération du travail. On ne peut pas accepter que la rémunération, la répartition entre rémunération du capital et du travail ne puisse jamais évoluer en faveur des travailleurs. Il y a des On voit des tensions importantes et des conséquences très fortes de l'incapacité des travailleurs à obtenir le maintien de leur rémunération, voire l'augmentation de leur rémunération. Quand même, les élections récentes de Trump aux États-Unis, de Milei en Argentine notamment, sont liées avec les conséquences de l'inflation. Ce n'est pas tant l'inflation qui provoque l'élection de Trump ou l'élection de Milei, c'est le fait qu'avec l'inflation, il y a eu des pertes de revenus importants pour les travailleurs.
Oui, mais pour autant, ils votent pour des gens qui ne vont pas leur redonner du pouvoir d'achat.
Non, tout à fait, c'est une illusion de croire que
donc est-ce qu'ils aiment s'habiller en cuir et se faire fouetter, ou pourquoi ils font finalement, pourquoi est-ce qu'ils votent parce qu'ils ont un pouvoir d'achat pour des gens qui ne vont pas leur en redonner. Est-ce que vous avez un avis sur cette chose-là?
Non, pas directement, mais juste sur la baisse de la productivité, c'est pas un phénomène récent.
Oui,
la baisse des gains de productivité, il y a vraiment une tendance depuis les années 50-60, par palier, à un ralentissement des gains de productivité. Et ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que dans les années 70, on a eu un fort ralentissement des gains de productivité, mais là, qui s'est traduit différemment qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que certes, les salaires réels ont ralenti, leur progression a ralenti, mais c'est avant tout les capitalistes qui ont vu, qui ont payé en quelque sorte la baisse de ces gains de productivité, puisque le taux de marge a fortement baissé.
La part des profits, une fois plus.
Et voilà, que la part des profits a fortement baissé. Et là, on est dans une configuration où la baisse des gains de productivité est avant tout payée par les salariés, par la baisse des salaires.
Oui, puisque la part des salaires a baissé quand même dans la valeur ajoutée. En France, on peut estimer à peu près que c'est 7% depuis les années 80. Donc, au début des années 80, quand on produit 100, et aujourd'hui, quand on produit 100, il y a 7 euros en moins dans la poche des salariés, et 7 euros en plus dans la poche des capitalistes quand même.
Un autre exemple très concret pour étayer cette réflexion, on indique dans le livre, on reprend cette estimation. En 2021, en France, 12% des salariés étaient rémunérés au SMIC. Fin 2023, on est passé à 17,3%. Donc de plus en plus de salariés sont maintenant rémunérés au SMIC. Pourquoi ? Parce que le SMIC bénéficiait d'augmentations liées à l'inflation par une certaine indexation du SMIC par rapport à l'évolution des prix, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des salaires. Donc les salaires sont rattrapés par le niveau de rémunération du SMIC, ce qui crée des tensions importantes dans le monde du travail sur le rattrapage de travailleurs rémunérés dorénavant au salaire minimum.
Oui, d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, pendant longtemps, on a connu en France et ailleurs ce qu'on appelait l'effet de halo, c'est-à-dire les salaires qui étaient juste un peu au-dessus du SMIC, quand le SMIC augmentait, ils augmentaient aussi. Et là, effectivement, ces dernières années, on ne voit plus du tout cet effet de halo. Est-ce que c'est parce que M. Macron est méchant? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là?
C'est que les mécanismes d'indexation ont disparu, c'est ça.
Mais ils ont été supprimés progressivement dans les années 70 et au début des années 80.
Oui.
Et pourtant, l'effet de halo fonctionnait encore dans les années 80, 90 et même 2000. Donc, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Est-ce que c'est Bruno Le Maire qui a fait peur aux syndicats cause de ses livres
Il y a un effet d'exonération de certaines cotisations sur le travail de la part des employeurs qui sont plus importantes sur les rémunérations au SMIC ou très proches du SMIC.
Oui.
Donc il y a un effet d'aubaine, c'est véritablement moins coûteux pour une entreprise de voir le SMIC augmenter que d'augmenter des rémunérations qui seraient au-dessus du SMIC, parce que l'effet lié à l'augmentation nominale, ce que va percevoir le travailleur plus l'augmentation des cotisations, n'est pas compensé comme elle le serait pour le SMIC. D'ailleurs, il y a un rapport récent de Bozio et Vasmer qui a été publié là en octobre dernier et qui propose de revenir sur ces exonérations de cotisations pour les salaires autour du SMIC.
Oui, donc ça c'est le résultat de tous les débats qu'on a eus dans les années 90 autour d'un certain Edmond Malevaux qui avait commencé à lancer cette idée qu'il faudrait rendre le travail moins cher en coupant les cotisations. Et donc et on en parlera tout à l'heure du pognon de dingue des assistés, on en reparlera tout à l'heure avec Hélène Tornemann. Mais pour l'instant on reprend sur votre livre, parce que quand même la question c'est C'est cette question de l'inflation. Quand même, effectivement, l'inflation qu'on a eue en 2022-2023 a fait mal, même si c'était que, entre guillemets, 5,3% l'année dernière. Bon, les gens ont bien vu que leur caddie, il n'a pas augmenté de 5,3%. Donc, est-ce qu'il y a un complot de l'INSEE, pour mentir sur les vrais chiffres de l'inflation?
Alors non, il n'y a pas de complot, mais simplement, il y a différents, il y a beaucoup d'indicateurs différents pour mesurer l'inflation. Et il n'y en a
ouais,
qu'un
dans votre livre,
qui est mis
dans
en
votre
avant.
Livre, il y en a tout plein. Et alors justement, est-ce que vous pouvez en parler sans être chiant?
Oui, rapidement, bah, c'est vrai que le plus connu, c'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation.
L'indice des prix à la consommation, oui.
Mais malheureusement, cet
et
indice,
le plus ancien, me semble-t-il,
c'est le plus ancien, en fait. Il a été créé et développé depuis, bah, depuis la seconde guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est celui dans lequel on nous raconte quand même que le logement, c'est 6,4% des prix.
Oui, alors voilà, évidemment, il n'y a pas le...
Moi, j'aimerais bien payer seulement 6,4% de mes dépenses dans le logement, hein. Ce serait sympa. Hein.
Déjà, y a, l'achat des logements n'est pas inclus dans l'IPC, puisque le but de l'IPC, c'est de mesurer l'évolution des prix à la consommation. Et l'achat d'un logement, c'est un investissement. Alors, si on prenait en compte, justement, si on prenait en compte, si on, on faisait un indicateur qui mesurait l'évolution des prix à la consommation et à l'investissement, pour les ménages, il augmenterait beaucoup plus vite. Par exemple, entre 2000 et 2018, le déflateur de l'investissement a progressé de 60% contre 24% pour l'IPC.
Alors, donc il faut voit expliquer bien que si ce on... que c'est le déflateur de l'investissement par rapport à l'IPC. C'est quoi la différence?
Ah ben, là, ça serait simplement de prendre en compte justement l'évolution du prix des logements, de l'intégrer à un indicateur d'inflation.
Mais on même le sait si on... très bien dans le livre, mais ouais. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'auront pas le temps de le lire, autant développer un tout petit peu ici.
Mais même si on prenait en compte, d'une part, l'évolution des prix à la consommation, il y a un indicateur qui est beaucoup plus pertinent pour mesurer l'inflation subie par les ménages, c'est l'IPCH, l'indice des
à
prix à la consommation,
à l'IPCH.
harmonisé, ce qui prend en compte, justement, l'évolution des prix des biens et des services qui sont payés par les ménages. Parce que dans l'IPC, en fait, on prend en compte tout un tas de dépenses qui sont prises en charge par les administrations publiques. Par exemple, les remboursements par la sécurité sociale de médicaments, de consultations médicales, eh bien, sont intégrés au panier de l'IPC. Donc si on prend en compte l'IPCH, entre 2021 et 2024, entre janvier 2021 et janvier 2024, l'IPCH a progressé de 14,3% contre 12,4% pour l'IPC. Donc il y a déjà une différence qui n'est pas totalement...
Donc grosse différence négligeable. Entre les deux.
Grosse différence entre les deux, et malheureusement, c'est l'IPC qui est mis en avant et pas l'IPCH. Et autre chose, il y a des études aussi qui sont intéressantes et qui fonctionnent par budget type, budget de référence, qui essayent de mesurer comment évoluent les prix d'un panier de biens et des services qui permettent d'avoir une vie décente.
Oui, parce que dans l'IPC, l'IPCH et tous ces noms barbares, en fait, on a aussi des ordinateurs, des tablettes, des choses dont on n'a pas nécessairement besoin pour une vie décente et nécessairement besoin chaque année.
Exactement, parce que ce qu'on constate, en fait, là, notamment ce qu'on a constaté pendant la période inflationniste, c'est que des ménages qui pouvaient consommer un certain type de biens et services, ces biens-là sont devenus trop chers et donc ils sont repliés vers des biens de moins bonne qualité dont le prix augmentait moins vite.
Oui, ça, c'est particulièrement observé sur l'alimentation.
Oui. Exactement.
Les marques distributeurs, les pâtes où il faut ramper et avoir un certificat militaire pour les trouver dans les rayons, effectivement, on a vu ça. Hein.
Donc en fait, l'IPC mesure l'évolution des prix des biens et services qui sont en réalité consommés par les ménages, mais pas les prix des biens et services que les ménages voudraient consommer.
D'accord.
Et voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça que on note souvent qu'il y a un décalage entre l'inflation ressentie, entre guillemets, par les ménages et l'inflation mesurée par l'INSEE. Mais c'est parce que, justement, les ménages ne peuvent se replier vers des biens et des services dont le prix augmente moins vite. Et donc, forcément, l'IPC ou l'IPCH, en fait, mesure une inflation qui est inférieure à l'évolution des prix d'un panier de biens et de services d'une certaine qualité. Et là, on a des travaux très intéressants, notamment qui sont menées par Pierre Concialdi, là, à l'IRES.
Oui.
Et lui, il avait montré que sur
qui
la
est un
période...
compagnon de route des atterrés aussi.
Exactement.
Oui.
Et que sur la période 2000, entre 2000 et 2018, l'IPC avait progressé de 27%, alors que les différents budgets de référence avait progressé, l'indice des prix avait progressé de 40 à 42%.
Donc vraiment... Et l'enjeu politique de ça, c'est aussi que quand on doit revaloriser les choses, on vous prend l'inflation calculée par l'IPC.
Exactement.
Et non pas les autres indicateurs dont vous venez de nous parler. Alors, je suis désolé, je dois couper sur les indicateurs.
Mais indiquer que dans l'ouvrage, on rappelle aussi, au-delà des discussions actuelles sur les indices de prix, cette discussion, elle a toujours existé dès que l'INSEE a produit son IPC. Il y avait un indice des prix alternatif proposé par la CGT, par exemple, pour montrer que le panier de biens de l'ouvrier avait une dynamique des prix différente de celle mesurée par l'INSEE, ce qui était utilisé dans le rapport de force, ensuite avec le patronat, pour négocier les augmentations de salaire.
Et pourquoi ils ont laissé tomber à la CGT, d'ailleurs, cet indice, c'est super intéressant. Ils sont feignants maintenant, c'est des branleurs.
C'est quand l'inflation
s'est calmée.
Ça a été abandonné au début des années 90, cet indicateur alternatif.
Ouais. Bon, je suis désolé, mais on va devoir passer à autre chose. C'est fascinant, mais il y a déjà d'autres ouvrages, notamment ceux de Florence Génicatrice du Clercé, qu'on salue au passage, même s'il n'est plus au Clercé maintenant. passons à autre chose quand même. Moi, j'aimerais savoir, l'inflation, vous en parlez comme un enjeu, vous en parlez... Mais cette inflation dont les ménages ont souffert, même si ça s'est calmé maintenant, comme les salaires n'ont pas pleinement suivi, on continue de la sentir. Est-ce que c'est la faute finalement de Mario Draghi et Christine Lagarde? On a entendu ça notamment sur des blogs qui ont beaucoup de succès sur Internet. Est-ce que finalement c'est la méchante banque centrale? C'est Christine Lagarde qui a trop fait joujou avec son ordinateur pour créer de la monnaie. Elle a fait marcher la planche à billets, ce qui est une très mauvaise expression, parce que quand on crée de la monnaie, il n'y a pas de planche à billets qui fonctionne. Mais enfin, est-ce que c'est la faute de Mario Draghi et Christine Lagarde si les prix ont flambé comme ça en 2022 et 2023?
D'abord, sur la baisse de l'inflation actuelle, encore ce mois-ci, on a un léger rebond en Europe, en France, mais pas seulement, aux États-Unis aussi, de l'inflation. Donc on reste sur des niveaux d'inflation plus élevés que ceux qu'on connaissait avant la crise sanitaire. Donc l'inflation n'est pas derrière nous. Et comme tu l'indiquais, les effets de l'inflation, ils sont persistants. La baisse de l'inflation, ça ne veut pas dire que les prix reviennent vers le niveau qui était observé avant cette vague inflationniste. Donc on a des prix qui ont évolué, qui se sont déformés, et des rémunérations du travail qui ont progressé moins vite. Donc il y a des pertes de pouvoir d'achat pour certains, en particulier les travailleurs les plus modestes, et d'autres groupes qui, eux, ont bénéficié et continuent à bénéficier de cette augmentation des prix. Pourquoi revenir sur cette observation? Parce que ça répond aussi, ou ça permet de comprendre aussi la suite. L'inflation n'a pas été provoquée par une trop forte quantité de monnaie déversée dans l'économie.
Donc Mario Draghi et Christine Lagarde ne sont pas des grands méchants à cause de qui les prix ont augmenté?
On fait beaucoup de reproches aux politiques monétaires menées, en particulier pour lutter contre l'inflation. Mais les politiques monétaires ne sont pas la cause directe de la vague inflationniste.
Alors qu'est-ce que vous entendez par politique monétaire? Parce que tout le monde n'est peut-être pas familier. Moi, je vois très bien ce que vous avez en tête. L'argent magique, hein, certains ont appelé ça, le fait que les banques centrales, après 2008, se sont mises massivement à injecter de l'argent quelque part dans l'économie. Mais si c'est plus complexe, elles ont acheté des actions, des obligations, elles ont fait augmenter la taille de leur bilan. C'est ça que vous aviez en tête. Mais pourquoi d'ailleurs ça n'a pas provoqué d'inflation?
Parce que l'inflation est la conséquence de ce qu'il se passe dans l'économie réelle, et pas de manière directe dans la sphère monétaire et financière.
Donc concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, après la crise financière, les banques centrales sont intervenues pour sauver le système financier, pour sauver les banques, pour racheter des actifs financiers dont la valeur diminuait fortement, mais ça n'a pas permis, ça n'a pas provoqué une augmentation très forte des taux de croissance. Le chômage est resté élevé, la demande est restée relativement faible, et donc il n'y a pas eu d'envolée des salaires et des prix des entreprises. Donc il n'y a pas eu d'inflation après la crise financière de 2010. Et au contraire, en Europe, souvenez-vous, en 2010, on a plutôt des politiques budgétaires très austéritaires pour lutter contre la crise des dettes souveraines.
On a baissé les dépenses publiques pour lutter contre le bazar qui a éclaté sur les marchés.
Et en diminuant ces dépenses publiques, on a freiné l'activité, on a créé du chômage. Et donc, on a empêché, on n'a pas provoqué les conditions pour que les travailleurs obtiennent des augmentations de salaire, ce qui aurait pu pousser les prix à la hausse.
Oui, mais à contrario, après 2008, aux États-Unis, ils ne mènent pas tout à fait le même type de politique. Et notamment, eux, ils n'ont pas freiné sur les budgets, ni Obama, ni même Trump pendant son premier mandat, et encore moins Joe Biden, qui ont dépensé massivement. En 2019, je me souviens encore que le président de la Banque centrale américaine, M. Powell, se plaignait qu'il n'arrivait pas à faire 2% d'inflation. Donc, est-ce que c'est seulement le fait que les gouvernements n'ont pas voulu dépenser en même temps que les banques centrales qui explique qu'on a eu cette situation ?
On s'intéresse beaucoup aux explications de la vague inflationniste. Qu'est-ce qui s'est passé après la crise du Covid ? L'inflation aux États-Unis était plus élevée avant la crise sanitaire que ce que l'on avait en Europe.
Ok. Maintenant, on me fait signe en régie qu'on va faire... on a une petite pause musicale. C'est l'heure de la pause musicale. Vous avez choisi un morceau, vous voulez en dire un mot sur ce morceau, sur un morceau qui parle, comme par hasard, j'étais très surpris, de l'inflation.
Très rapidement, ce morceau, il date de 1975. Il a connu une popularité importante sur les plateformes d'écoute en ligne lors de l'inflation, dans la période récente d'inflation. Donc le chanteur Jackson a obtenu des revenus importants grâce à cette chanson qui a été passée complètement inaperçue dans les années 70, alors qu'il y avait aussi de l'inflation lors de cette période-là. Et cette chanson, elle évoque les effets différenciés de l'inflation sur les différentes classes sociales aux États-Unis. Ce qui est clair...
Donc on va écouter Imus Jackson, un morceau qui s'appelle tout simplement Inflation. You know, with the food and rent going up daily, man, it's becoming a day-to-day hassle just to survive. You see, inflation and taxation has taken over our great nation. People, stop what you're doing and listen to what I have to say. Inflation is in the nation, and it's about to put us all away. I can see a depression coming on, but like most of you, I hope that I'm wrong. With the money they pay a man to live on, how long can he carry on? I said, inflation, why don't you get out the nation? We'll be right back. Voilà, c'était donc MS Jackson pour son morceau Inflation. Merci de cette belle découverte. Donc maintenant, on va passer à une autre séquence avant de revenir avec nos invités. Alors chez les atterrés, on a constaté qu'on a plein de râleuses et de râleurs, jeunes et moins jeunes. Donc on a beaucoup en fait de tontons flingueurs et de tatas flingueuses. Et parmi ces tatas flingueuses, par téléphone, on a la chance d'avoir... Hélène Torgeman, qui est économiste à Sorbonne Paris Nord et qui voulait nous faire... Alors bon, maintenant c'est un peu outdated depuis quelques jours, puisque comme le disait le Gorafi, on a envoyé Michel Barnier en orbite, mais qui voulait nous faire une déclaration d'amour au budget en cours et qui voulait aussi nous parler des assistés. Donc Hélène Torgeman, est-ce que tu es là parmi nous?
Ouais, je suis là, vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend, bah, bienvenue sur Aligre FM, nous t'écoutons religieusement avec Jonathan Marie.
Salut Hélène.
Et Sylvain, Sylvain Billot, donc tu voulais pousser un coup de gueule contre l'assistanat, donc on t'écoute.
Oui, bah, écoutez, alors pour commencer, donc hier il y a eu les fonctionnaires en particulier en grève.
Oui, mais ils sont tout le temps en train de râler ceux-là, non?
Oui, oui, je sais bien, mais bon, 20% environ des fonctionnaires en grève, 31% des enseignants, du fait de qui râlaient effectivement contre les coupes budgétaires continues dans les services publics.
Jamais content.
Parce qu'il y a, on observe depuis des années et des années des baisses de financement des services publics, et c'est pas une grande nouvelle. Alors, dans ces temps de mystère budgétaire, est-ce que celui de 2024 va être reconduit ou pas? Enfin, on ne sait pas trop. Tous les deux ans, on nous propose une crise, une réforme des retraites nouvelles. Tous les deux ans, on nous propose une réforme nouvelle de l'assurance chômage. Là, par exemple, la dernière qui vient de passer hier, juste avant que le gouvernement tombe, c'est très gentiment un durcissement de l'indemnisation des seniors, qui permettra d'économiser 350 millions d'euros sur 4 ans. 350 millions d'euros sur 4 ans, vu la taille du déficit budgétaire, j'ose dire que c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan, quoi.
Oui, hein, 300 milliards le déficit budgétaire, c'est ça?
Ça va impacter des dizaines de milliers de gens pour rien. Voilà. Pareil, bon là je reste sur les fonctionnaires, gel du point d'indice entre 2010-2021, dans la fonction publique, ce qui a fait perdre entre 15 et 20% du pouvoir d'achat des fonctionnaires en 20 ans. Sans parler de la dégradation des conditions de travail qui sont régulièrement dénoncées par les médecins, les hospitaliers. Hein, on a même eu des fermetures de lits pendant la pandémie de Covid-19.
Logique.
On a des suppressions de postes tous les ans dans l'éducation nationale. Alors qu'il y a des enseignants non remplacés. Suppression de postes tous les ans dans l'éducation nationale, encore 4000 annoncés cette année. Stagnation des salaires, dégradation des conditions de travail et des crèches aux universités. Hein. Et on s'étonne qu'il y ait de moins en moins de postulants au concours d'enseignants, particulièrement dans le secondaire.
Même la justice. Non, mais c'est pas grave, on fait les speed recruiting. Donc,
Ouais, c'est ça.
Bon.
Même dans la justice et la police, qui sont quand même pas les premiers à manifester en général, on a vu les magistrats et les policiers dans la rue pour réclamer des meilleures conditions de travail et des hausses de salaire et des choses comme ça.
Mais alors Hélène, est-ce que finalement il faut pas faire tout ça parce que la dette va manger nos enfants?
La dette va manger nos enfants, je pense que ce qui va manger nos enfants c'est plutôt la pauvreté et les problèmes écologiques.
Donc alors comment on pourrait faire autrement alors finalement d'après toi?
Eh bien juste pour résumer quand même, donc on a des tas de petits rabiots par-ci par-là de quelques centaines de millions à quelques milliards. Par exemple, les collectivités locales qui ont déjà été amputées des revenus de la taxe professionnelle sous Sarkozy et de la taxe d'habitation sous Macron, alors que ce sont eux qui sont au plus près des gens, qui font marcher les services publics. Donc on a des fermetures de postes, d'hôpitaux, de maternités, de tribunaux. Et après, on s'étonne que le RN attire de plus en plus de gens avec leur défense, des gens qui ne sont rien, comme dirait Macron. Alors deuxièmement, justement, qui profite de la richesse créée par les travailleurs ? Essentiellement, les très grandes entreprises, en particulier celles du CAC 40. Il faut savoir qu'il y a environ 200 milliards d'euros par an en allègement de charges, de baisse de cotisations, d'aides diverses et variées comme le CICE et le crédit impôt recherche.
Je répète, 200 milliards, hein, 200 milliards, c'est
200
dur.
200 milliards.
Oui, milliards. Hein.
Par an. Par exemple, Sanofi, juste un exemple, hein, fleuron enfin, de l'industrie.
Une petite entreprise que personne ne connaît.
Voilà, c'est ça. A touché en moyenne 150 millions d'euros de crédit d'impôt recherche par an les 10 dernières années, ce qui fait 1,5 milliard en 10 ans. Est-ce qu'ils ont réussi à mettre au point un vaccin contre la Covid ? Non. Au contraire, ils ont licencié des milliers de chercheurs ces dernières années, malgré avoir touché ce 1,5 milliard pour stimuler la recherche et le développement. Donc, les contribuables français ont payé deux fois. Ils payent une fois en finançant le crédit impôt recherche et ils payent une deuxième fois en achetant ensuite les médicaments. Merci la Sécurité sociale. Des études américaines menées en particulier par Bill Lazonik et son équipe montrent que cette tendance est générale dans l'industrie pharmaceutique, qui a tendance à s'endetter pour verser des dividendes à leurs actionnaires et financer les rachats de leurs propres actions pour en faire monter artificiellement le cours. Ça, c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des secteurs d'ailleurs, puisqu'il s'agit... Hein, c'est
et dire qu'à l'époque, les gens étaient très choqués par Gainsbourg qui brûle un billet de 500 balles en direct, le rachat d'actions, c'est ça... c'est un peu ça à grande échelle.
C'est sur des milliards de dollars, puisqu'il s'agit de maximiser la valeur actionnariale plutôt que de fabriquer des bons produits, en gros. Donc, ils rachètent leurs propres actions pour en faire monter artificiellement le cours. Autre exemple, pendant la crise de la Covid, les entreprises du CAC 40 ont touché beaucoup d'aides publiques en 2021. Ce qui ne les a pas empêchés de verser plus de 50 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, c'est-à-dire plus 20% par rapport à l'année précédente, 2020. Ça, c'est juste pour les 200 milliards d'aides diverses et variées directes aux entreprises. Mais il ne faut pas non plus oublier les niches fiscales, environ 50 milliards d'euros pour les plus riches.
Rien que ça, mais c'est pas grand-chose, enfin...
Bah, c'est à peu près ce que rapporte l'impôt sur le revenu, juste pour donner un ordre de grandeur. Ne pas oublier non plus l'évasion fiscale, qui par nature est difficile à évaluer puisque c'est en général caché aux Bahamas ou ailleurs, mais qui est estimée en France à peu près plus de à peu près 100 milliards d'euros par an, qui donc en tout nous fait 350 milliards d'euros par an, alors qu'on va rabioter sur des 300 millions, 2 milliards approuvés par là, alors qu'on a une cagnotte de 350 milliards pour les entreprises. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre, évidemment que non, mais on pourrait peut-être partager un peu. Donc je pose deux questions. Premièrement, qui sont les assistés dans nos sociétés ? Deuxièmement, à quand un rééquilibrage drastique du partage des richesses entre capital et travail.
Voilà. Donc ce qui va nous permettre de revenir à nos invités. Alors juste avant de te laisser, Hélène, on te remercie pour ce coup de gueule. Je pense qu'il y a des notes à prendre effectivement sur ce pognon de dingue dans un contexte où on nous dit qu'il y a de l'argent nulle part. Mais juste avant de te laisser, j'ai entendu dire que tu aurais planté ta tente ces dernières semaines à France Culture. Alors quelles sont tes prochaines dates de tournée à France Culture ?
D'abord, premièrement, non, j'ai pas planté ma tente à France Culture. Je suis passé dans une émission il y a 3 semaines dans l'émission de Quentin Maffré qui passe après le journal de 18h. Et j'enregistrais il y a 3-4 jours une émission qui passera le 24 ou le 26 décembre, à l'heure où tout le monde sera en train de s'enfoncer de dinde et de foie gras. Et donc, je ne sais pas
si. C'est pas grave, on l'écoutera volontiers en podcast. Voilà, bon, on va devoir te laisser. On te remercie infiniment pour ce coup de gueule qui, je suis sûr, a remis tout le monde en forme. Et on va revenir avec nos invités, mais en attendant, on va écouter une grande analyse économique en musique qui s'appelle La Ruinance.
Je vais te faire kiffer ce week-end, ma jolie. Dans mon 9 mètres carrés, je te fais des raviolis. J'ai plus de gaz, chez moi c'est la bougie. Je cherche un pot de moutarde désespérément chez Aldi. Fini la fête, c'est Macron qui l'a dit. Ray-Ban sur la tête après 2 heures de jet-ski. Ça me laisse perplexe car quand je vois mes factures, faudrait que je disparaisse pour me serrer plus la ceinture. Voyager jusqu'à Aulnay-sous-Bois, le soir au Lidl, claquer son RSA. Mais une grosse roulée sur le trottoir de chez moi. Faire le tour de l'Île-de-France dans un RERA. Paraît qu'en France c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Moi j'ai de la chance, j'avais pris un peu d'avance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Paraît qu'faut qu'on rentre dans la sobriété. J'ai dû louper un truc, moi je croyais déjà que j'y étais. Mais j'ai cru voir dans le ciel un jet privé, en pleine canicule des terrains de golf arrosés. J'ai ma banquière, hôtel plus souvent que ma mère. On dirait un nudiste tellement que je suis à découvert. Je prends un yaourt, je suis calé au resto du cœur. Je retire 20 euros, ma carte reste dans le distributeur. Paraît qu'en France, c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. J'ai plus de finances, même pour faire un litre d'essence. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Voyager jusqu'à Choisy le Roi. Faire un guide Michelin des agences Pôle emploi. Être dans le rouge quand vient le 5 du mois. Je te paye l'apéro, j'espère t'aimes la Bavaria. Paraît qu'en France c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance.
Bon, alors c'était les Goguettes en trio, la ruinance, la fin de l'abondance, qui nous avait été annoncée par notre président Macron, ce qui ne nous empêche pas de trouver du très bon l'abondance en fromagerie. Alors, on reprend donc avec nos invités, et Hélène Torgeman nous a parlé de répartition, et puis ça tombe bien. Parce que finalement, pour vous, pour l'inflation, c'est une question de répartition. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous dire quelques mots là-dessus, Jonathan, par exemple ?
Oui, c'est vraiment un point clé pour nous dans l'ouvrage. C'est l'inflation et la manifestation de tensions sur le partage de la valeur ajoutée, sur la répartition du revenu. C'est la question clé de l'économie politique, la question de la répartition. Et comprendre la dynamique des prix, c'est comprendre comment certains groupes, certaines entreprises ou certains travailleurs parviennent à faire évoluer la situation plus en leur faveur au détriment d'autres groupes. Donc c'est la question clé. Mais selon les périodes historiques, selon l'organisation des institutions, de la législation, les rapports de force, l'inflation ne va pas systématiquement avantager les mêmes. Et il est possible d'éviter des effets délétères de l'inflation sur certaines catégories. Si l'objectif de la politique économique était vraiment de défendre la valeur travail, il est possible de mettre en place des mécanismes qui assurent aux travailleurs le maintien de leur rémunération réelle, même s'il y a de l'inflation, voire de soutenir leur pouvoir d'achat, de soutenir l'augmentation des salaires, ce qui se ferait au détriment d'autres classes sociales.
Donc vous voulez voler aux riches pour réhabiller les pauvres ?
On ne veut pas voler, on veut faire en sorte que la répartition puisse évoluer dans un sens différent de la dynamique que l'on observe ces dernières années.
D'accord. Et comment on fait ça d'ailleurs ? Puisque maintenant, là, vous avez roulé des mécaniques sur l'inflation qui est d'origine, mais comment on fait ça dans le contexte actuel ? La mondialisation, les pauvres actionnaires qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent, enfin, comment fait-on ?
Il y a deux mesures un peu immédiates qu'on met en avant, c'est l'indexation des salaires sur le prix et les prix et le blocage des prix, parce que ce qu'on essaye de montrer, c'est que, notamment dans certains secteurs où la demande est captive, comme l'alimentation, l'énergie, on voit que là, les marges ont fortement augmenté. Et par une décomposition comptable un peu des prix, c'est-à-dire en gros les prix... On peut les décomposer en coûts des intrants, salaires et profits. Et on voit que la contribution des profits à la hausse des prix est très importante dans ces secteurs-là. Où en fait, c'est des secteurs où il y a une forte concentration du capital, hein, dans les grands groupes de l'agroalimentaire, le transport maritime, le raffinage. Et là, on voit que clairement, il y a des profiteurs de crise.
Ils se sont vraiment gavés
dans certains secteurs. Oui. Et là, dans ces secteurs-là, qui produisent des biens et des services vraiment fondamentaux, hein, l'énergie, l'alimentation, il y a vraiment nécessité d'avoir un contrôle sur les prix, quoi, pour éviter des
abus. Alors, il faut rappeler quand même que le contrôle des prix, c'est pas non plus que ce qui se faisait en URSS. Le contrôle des prix, on l'a un peu oublié, mais ça se faisait régulièrement dans les pays occidentaux pendant des années. Donc, vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste, parce qu'on entend notamment des gens du MEDEF ou des économistes du courant dominant dire le contrôle des prix, c'est l'URSS. Donc, est-ce que c'est l'URSS ? En quoi ça consiste ?
Ça consisterait au fait que des services de l'administration... d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'avait évoqué Bruno Le Maire. Parce qu'à un moment, sur la question de l'alimentation, il disait qu'il allait imposer à la grande distribution de lister un petit peu tous les produits qu'ils vendaient et puis de leur imposer... pas de leur imposer, justement, mais... de vérifier en fait que les prix de ces références-là n'allaient pas augmenter trop vite. Sauf que, en fait, il y a eu. C'était simplement une recommandation. Et simplement, il faudrait que l'administration, en effet, fixe en fait. Ait la liste en fait des produits qui sont vendus par la grande distribution et impose et vérifie que les prix augmentent de tant de pourcents. Et si c'est pas le cas, en effet, impose des sanctions. Je pense que ça,
c'est-à-dire techniquement... ils vont se faire taper sur les doigts. Comment, en fait, quel type de sanctions on impose pour ceux qui respectent pas la règle ?
Ça peut être des amendes ou ça peut être carrément des sanctions plus dures.
Pas de châtiment corporel.
Pas de châtiment corporel. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment une mesure nécessaire. Et évidemment, il y a la question de l'indexation des salaires sur les prix, parce que depuis 2017, en effet, il y a des chiffres qui sont très parlants. Les salaires, alors selon les indicateurs, salaire horaire, salaire par tête, etc., ils ont baissé entre 3 et 5 % depuis 2017, alors que les dividendes versés aux ménages ont augmenté de 80 %.
Oui, versés aux ménages les plus riches.
Versés aux ménages les plus riches.
Et la double peine pour les travailleurs en particulier, c'est quand même que pour limiter l'inflation, pour ralentir l'inflation, pour éviter, croyait-on, qu'il y ait une spirale où l'augmentation des salaires pourrait alimenter à nouveau l'augmentation des prix.
Oui, c'était une crainte évoquée par certains pour le rappeler.
Ce qui, historiquement, on le rappelle dans le livre, est une foutaise. Les périodes d'inflation forte générées par des augmentations de salaires sont extrêmement rares dans l'histoire. Et ce n'est pas du tout le cas de l'inflation récente. Mais face à l'inflation récente, on a fortement augmenté les taux d'intérêt par la Banque centrale. On a organisé l'augmentation du chômage. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où des travailleurs ont vu leur revenu réel diminuer du fait de l'inflation, le pouvoir d'achat diminuer du fait de l'inflation et font face à un risque de perte d'emploi, un risque de chômage. On le voit avec toutes les défaillances d'entreprises dans le contexte français actuel, font face à un risque de chômage plus fort que précédemment à cause de cette politique monétaire. Et la deuxième lame de cette politique économique délétère, c'est maintenant les politiques budgétaires récessives qui, à nouveau, vont pousser à l'augmentation du chômage. Donc c'est vraiment une politique économique à rebours de ce qu'il faudrait faire, à rebours des propositions contenues dans le livre.
Et alors, donc, ces propositions, en sortant, vous allez prendre un taxi pour l'Élysée et les remettre en main à Emmanuel Macron ? Elles sont dans le débat public et on compte sur les auditeurs pour faire la révolution à notre place. Voilà.
Bon, on la fera avec eux.
Très bien. Il nous reste 3 minutes, même si on a pris un peu de retard au début. Alors, dans cette émission, on va finir par une rubrique qui consiste finalement à donner des idées. Et là, ça tombe bien, on est le 6 décembre. Tout le monde n'a pas encore fait ses achats de Noël. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à nous conseiller, que ce soit des livres, des vidéos, des films, ce que vous voulez, des recettes de soupe ou peu importe. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux auditeurs? Peut-être un plat de Noël original, à part votre livre évidemment, Inflation, qui perd, qui gagne, pourquoi, que faire? Il y a quand même beaucoup de questions dans ce titre. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs, peut-être pour se faire plaisir ou faire plaisir à leurs proches à l'approche des fêtes?
Alors, moi, j'avais pensé à 2 recommandations gratuites, 2 blogs. Alors, 2 blogs d'économie, hein, pour rester dans le thème.
Pas chiant, j'espère. Hein,
pas chiant. Non, pas chiant. En tout cas, très, très intéressant. Donc, un blog français, à mon avis, le blog d'Olivier Berruyer, le blog Les Crises et le site Elucide, qui fait vraiment un travail très intéressant, très pédagogique sur les données. C'est un statisticien de formation et vraiment il fait vraiment un traitement des données très intéressant, très accessible. Et autre recommandation, un blog plus sur la conjoncture économique, le blog de Michael Roberts, qui est un économiste marxiste. Très intéressant, il fait un travail aussi sur les données, très accessible, avec un régulièrement mise à jour. Par exemple, Romaric Godin fait de plus en plus référence à cette
journaliste économique vraiment, à Mediapart, voilà, qui était à la Tribune avant.
Voilà, qui fait vraiment des articles d'économie qui sont, sont remarquables.
Oui, tout à fait.
Et voilà, donc c'est mes 2 recommandations.
Peut-être une recommandation cinéma, si vous n'avez pas vu le film, vraiment, et si vous n'êtes pas convaincu par le propos qu'on a cherché à défendre, qu'il faut augmenter les revenus du travail, allez voir Au boulot de Ruffin, qui nous rappelle combien, quand même, de nombreux pans du travail en France est largement sous-rémunéré.
Ah, mais on ne pourra pas l'offrir pour Noël, mais on pourra
aller voir.
Non, mais
on peut y aller. Voilà. Moi, on n'est pas obligé de surconsommer non plus.
Mais moi, je vais pousser la consommation pour un livre, ce qui n'est pas un livre d'économie, mais de quelqu'un qui fait des vidéos d'économie pour le Media Blast, qui est Salomé Sacquet, qui a publié un livre sur comment résister contre l'extrême droite, qui s'appelle Résister, ça coûte seulement 5 €, et il y a un double avantage. Premièrement, c'est bien écrit. Deuxièmement, c'est un cadeau pas cher pour Noël. Et troisièmement, elle met le seum à Jordan Bardella et à Philippe Devilliers dans les vents. Donc, achetez, faites offrir ce livre de Salomé qu'on salue, puisque à l'époque, chez Les Atterrés, on avait fait une émission avec elle. Donc, il est l'heure de conclure. Donc, on remercie Sylvain Biot et Jonathan Marie pour cette... d'être venu faire les cobayes pour cette première. On remercie Radio Aligre, on remercie les techniciens qui ont fait ça dans des conditions un peu rock'n'roll, et notamment Sephraim et Bruno, qui est venu prêter main forte, vraiment de manière absolument admirable. Merci à vous. On remercie Aligre, on espère que ça vous a plu. Alors une dernière chose, ici c'est un peu le contraire des conventions citoyennes d'Emmanuel Macron. Puisque vous pouvez vous exprimer en nous envoyant un mail, vous avez le mail, donc ce sera atterré@aligrefm.org, et on lira et on suivra vos suggestions d'invités, peut-être pas tous, etc., mais au moins ce sera lu et ce ne sera pas utilisé pour caler les armoires. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain, on vous souhaite de très belles fêtes avec... Inflation qui perd, qui gagne, pourquoi, que faire, les blogs, avec le film de François Ruffin, et à très vite sur Aligre FM, en espérant vous retrouver le mois prochain.